donc potentiellement à aller, se battre pour une place en Europe, c'est Martin Delavalle.
Ah, j'étais sûr qu'il allait ça. Formé à Moucron.
Formé à Moucron, voilà.
Formé à Moucron.
Je voulais la placer, mais j'ai même pas eu le temps.
Sans se prendre au sérieux, c'est toujours mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode du Clubhouse Football Time. C'est un plaisir d'être en votre compagnie avec mes chroniqueurs aussi piquants que délicieux. J'ai nommé Xavier. Comment ça va?
Ça va pas mal et toi aujourd'hui?
Comment va tête de bière?
Il va pas trop mal.
Yes, sur le pull, toujours très excellent. C'est un baron, visiblement. Tu connais le film Les Barons, tiens?
Ouais, faire une petite très bon film. Hein.
Sympa, hein, sympa. Ouais. Et j'adore aussi la morale de cette histoire, Les Barons. Vous connaissez Les Barons?
Non, pas du tout.
Vous avez jamais vu Les Barons? Mais c'est aussi culte que Dickeneck, par exemple, hein, Les Barons. Les Barons.
Mais moi, j'aime pas les films, alors.
C'est, en fait, si tu veux, si tu as atteint un certain nombre de pas dans ta vie, tu meurs. C'est en fait, c'est en gros, si tu veux l'analogie,
voilà, ça,
c'est ça, exactement. C'est un film vraiment que tu devrais voir, c'est un classique de la cinématographie belge, voilà. C'est sympa. Bonjour Thomas, comment
ouais,
vas-tu?
Ouais, super, sympa l'intro, hein, franchement. Je suis refait, là. Je pense qu'on a perdu tous les viewers, là. Plus personne qui regarde.
Ils adorent le cinéma, nos viewers, évidemment. Ils adorent ça. Bonjour mon Quentin.
Allô.
Ça va?
Ça va très très bien.
Très 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 en forme, bientôt 31 ans. On n'aura pas le temps de te souhaiter un joyeux anniversaire puisque ce sera déjà passé, mais je te le souhaite.
Merci,
joyeux anniversaire, Quentin. 31 ans. 31 ans. Ça va? Ça va?
Ouais.
Qu'est-ce que ça fait d'avoir 31 ans?
C'est que, comme on en discutait en off, chaque année, on devient meilleur. Donc, je serai encore meilleur en 31 ans qu'à 30 ans. Toujours ce mindset.
Voilà, exactement. Le mindset, l'état d'esprit, toujours monter. Et on vous remercie, comme d'habitude, de nous faire aussi monter. Les vues continuent à grimper grâce à vous. Votre fidélité l'est également. Et c'est évidemment un très, très grand plaisir de pouvoir vous accompagner. Comme, eh bien, on peut accompagner Thomas pour son happening.
On joue à quoi? Putain,
tac, la surprise. Il faut être vigilant. C'est une émission. À un moment donné, les gens nous écoutent, nous regardent. On est également disponible en podcast, évidemment, sur Spotify et Apple Music. Donc, je t'écoute.
Exact. Donc, ça va être très simple. Je vais citer un pays et vous allez devoir me sortir un joueur du championnat belge. Ok, très simple. Donc okay. Celui qui trouve un joueur qui correspond au pays que j'ai cité.
Moi c'est comme quand je joue au football. Ne commence jamais avec moi parce que l'exercice je ne comprends pas. Je comprends pas la consigne. Demande aux autres qui comprennent avant moi.
Il y a pas de qui commence en premier. Tu donnes un pays et tu dois trouver un joueur qui correspond au pays que je cite.
Tout de suite.
Du championnat belge.
Si tu donnes le Nicaragua, je te nique. Ok, c'est bon.
2024-2025, ne sort pas des Yann Kohler.
Ça c'est mon époque.
Ça l'a marqué.
Je suis un vieux.
Allez, vous êtes prêts?
Ouais.
Il y a 10 pays, donc il y a 10 points à prendre. Okay. Let's go. Argentine.
Vasquez.
Un point pour Quentin.
Lionel Messi.
Mais
j'ai toujours pas compris.
On passe au
suivant.
Non,
juste le premier.
Ah, ok, pardon. Je fais exprès. Mec, il fout la merde.
Là, tu vas trouver. Normalement, okay. Tu prends le point.
Ok.
Grèce.
Solis.
Je pensais que t'allais sortir carré de ça.
Oui, mais il va tellement vite.
2 points pour Quentin. Algérie.
Kadri.
3 points pour Quentin.
Trop fort.
Iran.
L'attaquant de Sterlo, mais le nom est impossible.
Voilà.
Comment?
4 points pour Quentin. Ouais. 4-0, là. Aïe.
C'est incroyable.
Pologne.
Pologne.
Skorvas.
Bravo.
5 points pour Quentin. Super, wow. Concentre-toi. Ouais. Regarde pas tes fiches.
Moi, je c'est pas mon émission, là. On est en émission, hein, je te rappelle, hein. Donc, on est en live. Les gens nous écoutent.
Ghana.
Le Ghana. Ah, Thierry Ambrose? Non, il est martiniquais, c'est vrai. Guadeloupé, pour être exact.
Ghana, honnêtement.
Non.
Oh, il y en a beaucoup, hein.
Non.
Bonsuba? Non?
Oui, Bonsuba, c'est excellent. Ouais.
Il y avait Odoi, il y avait Achimeru, il y avait Fousseini, il y en avait plusieurs. Là, c'est un difficile. Mais, tout aussi facile, je pense. Indonésie.
Ah oui, Walsh.
Non, mais il est plus là. Maintenant, il est plus là.
Ah, mince. J'allais vous dire un défenseur d'Empoli, mais ça fonctionne pas.
C'est ton club préféré en Belgique, en plus.
C'est qui son club
préféré? Le RFC Liège?
Non. Ah, okay. En Belgique, en Pro
c'est
League.
Qui, c'est quoi,
ah, en Pro League.
Dender, abuse.
Dender. Ah oui, mon club préféré, mais je vois très bien de qui tu parles, mais je n'ai pas son nom. Donc, on va avancer avec.
Rhodes, non.
Oratman Goon,
il s'appelle. Ah oui, juste avant,
je sais, mon
frère. Ouais. Vous êtes prêts?
Oui.
Celui-là, franchement, si tu ne trouves pas, t'es une merguez.
Je suis peut-être une merguez, c'est possible.
Chili.
Ah oui, bah Nayel Messatou.
Allez,
ça c'est facile.
Un point. Donc 5 points pour Quentin, 1 point pour...
Et moi aussi un point.
Et toi aussi un point, exact.
Okay.
Il y en a encore 2.
Allez.
Madagascar.
Ah bah oui, il y a Armitra.
Voilà. Okay. Et il y avait lui aussi, exactement. Ouais. Dernier, le Japon.
Fujita.
Ouais, voilà. Ça a été très très vite. Fujita, défense, milieu de terrain incroyable de Saint-Ouen d'ailleurs. Ouais. Moi j'adore numéro 8, hein, on est d'accord. Ouais. C'est joueur fantastique, il a encore fait un très très gros match.
Exact.
Et je voulais d'ailleurs vous poser la question pendant cette période un peu de flou d'introduction sur cette finale de la Challenger Pro League. Parce qu'on peut pas passer à côté, c'est la dernière journée, on parle jamais de Challenger Pro League. Là il y a quand même trois équipes qui se tiennent en un point. On le rappelle, 56 points pour la RAL, 57 pour Zulte Waregem, 57 pour le RWDM. Est-ce que vous avez suivi un petit peu cette saison de Challenger Pro League? Et est-ce que vous pensez que quelque part, après cette défaite justement du RWDM et celle également de Zulte Waregem qu'on avait un peu prévu, hein, d'ailleurs dans le groupe victoire de Lokeren le week-end dernier, la RAL peut venir aller chercher ce titre?
Bah, franchement, je pense que oui. Parce que Zulte a perdu un gros joueur au mercato d'hiver et depuis c'est un peu plus compliqué. Et RWDM, je les trouve pas. Enfin, mais même quand tu regardes le noyau, ça fait pas forcément rêver. Je trouve que la consistance n'y est pas non plus et c'est ce que la Louvière a eu tout au long de la saison. Donc je pense que ça va leur, ça va rapporter ses fruits et que potentiellement ils seront champions parce que c'est quand même un duel entre Zulte Waregem et RWDM la dernière journée. Donc il y a vraiment beaucoup de chances que la RAL soit championne.
J'aime beaucoup ce club très sain avec un, on avait déjà évidemment reçu ici le conseiller du président David Nicolas Frutos, également David Verwilken le directeur sportif. C'est quand même un club qui fait plaisir parce que c'est déjà sur un mode différent des autres, le mode associatif qui grandit d'année en année, qui n'avait pas l'ambition de monter mais qui avec des bons coups intelligents, notamment des joueurs qui viennent du championnat de France, a réussi à élever directement son niveau de jeu. Et un joueur quand même que moi j'aimerais mettre en avant, que tout le monde entre guillemets voulait soi-disant en D1A, en tout cas dans le bas de la D1A, mais personne n'a jamais fait le vrai step pour pouvoir le convaincre, Lara l'a fait, c'est Mohamed Guindo. Moi je trouve que Mohamed Guindo c'est un super attaquant, exactement, qui est un joueur qui a un très très gros potentiel et qui va pouvoir peut-être aider forcément la RAL à être champion et à se maintenir peut-être même en Jupiler Pro League. Ton avis sur la RAL, Quentin?
C'est très intéressant, j'habite pas très loin de là-bas, je suis à 15 minutes en voiture et la gestion de Salvatore Curaba, ce qu'il fait du club, c'est incroyable. En plus ça va tomber à pic parce qu'il y a le nouveau stade qui va être prêt pour aller en D1 et j'ai déjà vu pas mal de reportages sur lui et il a aussi une autre société à part où des amis qui travaillent dedans et franchement, je trouve sa gestion incroyable. Il sait vraiment s'entourer des bonnes personnes, pas brûler les étapes, pas se voir plus beau que ce qu'il est. Quelqu'un de la région, c'est vraiment très très beau. Ils ont leur sort entre leurs mains, donc on leur souhaite le meilleur. Et ils arrivent, je trouve, ils font la transition au moment parfait. Parce qu'on sait que l'année prochaine, ça va être la transition entre les playoffs et la phase classique. Et donc, il y aura que un relégué. Et donc ici, au lieu de potentiellement 3, je trouve pour une année de transition, c'est parfait pour eux. Et donc avoir moins de risques de directement faire l'ascenseur et de redescendre en D2.
Allez, on y reviendra là-dessus évidemment le week-end prochain quand les dés seront rejetés. Mais il est possible que je l'invite dans le Football Time parce que c'est effectivement un entrepreneur qui sait voir Exactement. Les choses, qui connaît le football et qui fait beaucoup, beaucoup de bien. Donc on est tous d'accord sur la RAL, la possibilité de voir la RAL. D'autant qu'il y a la rencontre forcément entre le RWDM et Zulte Waregem. Alors du côté de Zulte, Xavier, je voulais quand même m'arrêter deux secondes. Ça fait quand même plusieurs années qu'on met énormément d'argent, plusieurs années qu'on pousse pour aller justement Jupiler Pro League et qu'on n'y arrive pas. C'est quand même un problème à un moment donné dans cette équipe et dans ce club.
Toujours dans le sprint final, ils craquent un peu sous la pression, t'as la pression, parce que vraiment, ils ont les moyens, ils ont l'équipe pour, mais à la fin, il y a toujours un petit couac qui coince et ça va pas. Après, potentiellement, tout n'est pas perdu pour eux, mais je pense que ça va être compliqué dans le sens où, comme on l'a dit, la RAL, ils ont tout à gagner et rien à perdre à l'heure actuelle, et les deux de l'autre côté, RWDM et Zulte, pour le moment, quand ils doivent vraiment faire la différence pour assurer leur maintien, ça va, enfin leur monter plutôt, ça va pas. Donc là, ils vont avoir peut-être encore plus de pression, ils ont pas le droit à l'erreur, tandis que de l'autre côté, ils jouent, pas dire pour s'amuser, mais ils ont que du bonus. Oui. Donc quoi qu'il arrive, je pense qu'eux ils vont le faire et de l'autre côté ça va être plus compliqué.
On avait vraiment le sentiment le week-end dernier que personne ne voulait ce titre, Thomas, c'est assez dingue. Le RWDM avait véritablement tout en main, il y avait évidemment une fête déjà prévue, les calicots, des objets pyrotechniques, enfin c'était vraiment, tout le monde était prêt à ça, les gens étaient carrément, beaucoup de gens qui ne vont pas d'habitude au stade Edmond Martens, ils ont été, et là il y a eu une défaite quand même face à l'OMEL. Est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas les épaules suffisamment larges du côté de Yannick Ferreira et de ses hommes? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, alors que tout était prêt, ils n'ont pas réussi à faire le saut de qualité?
Je sais pas, il y avait un certain stress, je pense aussi, parce que quand tu regardes les occasions qu'ils ont eues, il y avait quand même des occasions, enfin, je vais pas dire que c'était facile à mettre, mais c'était des buts plutôt, faisable, quoi, tu vois. Donc, je pense que c'est un certain stress que les joueurs ont eu. Ils ont pas assumé cette responsabilité-là à ce moment précis. Mm-hmm. Donc, c'est dommage. Mais j'aimerais bien revenir aussi sur ce qu'il disait Xavier par rapport aux moyens que Zult a financés. Ils sont énormes. Et justement, de l'autre côté, on a la RAL qui ont très peu de moyens. Et je suis assez bien placé pour le savoir parce que c'est vraiment des gratteurs. Pour le coup, vraiment, c'est un terme assez fort. Je l'admets.
Ils sont essayés de t'embaucher pour rien du tout. Dis-le nous.
Entre autres. Oui. Mais pas que moi. J'ai aussi des joueurs que je connais qui ont joué là. Et franchement, mais justement, au final, ça, dans un certain sens, ça marche avec très peu de moyens. Ils réussissent à faire de très belles choses. Donc c'est encore plus beau à voir, je trouve, parce que ils ont très peu de moyens, ils arrivent à faire de très belles choses. J'aime beaucoup.
Quand tu regardes, on avait Julien Gorus ici l'année dernière. C'était un des plus petits moyens aussi, et Bender a réussi à monter en division 1.
Ouais.
Comme quoi, l'argent ne fait pas tout.
Exactement.
C'est l'état d'esprit, puis surtout, c'est un très très beau tandem, Vincent Evrard. On y reviendra dans quelques instants. Préparez vos pancartes concernant Dender Standard. Bien évidemment, c'est la transition parfaite. Le d'accord, pas d'accord. On y plonge tout de suite avec donc le sujet Standard de Liège. 23e match sans victoire en Europe Playoff. Le Standard qui n'a plus gagné dans cette compétition, cette mini compétition depuis le 6 mai 2021, c'était une victoire contre la Gantoise, rate la belle opération et a été sauvé par son gardien Mathieu Epolo, sans qui les Liégeois n'auraient même pas obtenu un point à Dender. Est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord avec cette phrase? Attention, elle est longue, ça veut dire qu'elle comporte pas mal de sujets de débat. Xavier?
Moi, je suis d'accord.
D'accord.
Pas d'accord.
On n'est pas d'accord du côté de Thomas. Et qu'est-ce qu'on dit du côté de Quentin? Ouais, on est dans l'hésitation, mais on n'est pas d'accord.
Ouais.
Est-ce que tu lèves le pas d'accord?
Ouais, pas d'accord.
Allez, tu lèves le pas d'accord. Très bien. On a donc un petit duel là qui s'amorce. Je vais commencer par Thomas.
Bah, je suis pas d'accord avec ce que tu dis dans la phrase quand tu dis que le Standard a été sauvé par Epolo. Certes, ok, il a fait un bon match. Je suis fan de lui, vous le savez. Mais c'est juste son double arrêt qui fait que il a fait un gros match. Mais à part ça, je trouve que le Standard n'a pas forcément fait un très mauvais match. On a déjà vu pire d'eux. Ils ont eu beaucoup d'occasions, même plus que Dender. Je trouve que la première mi-temps était plutôt dominée par le Standard que par Dender. Donc, non, je pense que le Standard aurait pu gagner cette rencontre. Mais est-ce qu'il voulait gagner cette rencontre? C'est ça la question.
Ouais. Est-ce que le Standard voulait gagner cette rencontre, Quentin?
Il y a plusieurs choses à dire sur cette rencontre. Sur cette question-là, il y a quelque chose qui m'a choqué. C'est notamment, tu le parles, sur le double arrêt que Epolo fait sur la frappe de Berthe. Il y a quelque chose qui m'a choqué. C'est honnêtement, soit c'est les défenseurs qui sont en froid avec Epolo et qui le détestent, soit c'est les défenseurs qui n'ont pas envie de gagner. Mais d'habitude, quand un gardien fait un tel arrêt, quand on regarde un match, les défenseurs, ils sont comme ça, ils sont contents, ils vont féliciter le gardien. Là, ils ont pas bougé. Ils ont été surplacés, il y a eu le corner. Franchement, ça m'a choqué derrière ma télé. Je me suis dit, mais ils sont même pas contents que leur gardien fait un super barré et les sauve, quoi. Donc, soit c'est le joueur qui en a complètement rien à foutre, ou soit c'est ils aiment pas Epolo, ils ont pas envie de le féliciter. Non. Mais ça, c'est un truc qui m'a marqué. Et pour en revenir aussi, c'est le Standard a bien joué et tout, mais il faut qu'on insiste là-dessus. Pour moi, je trouve que c'est inadmissible, c'est honteux d'en division 1 belge de jouer sur un terrain pareil. Excuse-moi, ouais, à chaque fois qu'un joueur faisait une conduite de balle, le ballon il sautillait comme ça. Un joueur dans le milieu de terrain, un attaquant, un joueur prolifique ou quoi, qui veut faire quelque chose avec le ballon, il sait rien faire. On regarde sur le goal que le Standard marque, ouais, le Untonji, t'as vu le rebond qui s'affaille et tout, il sait rien faire. Il arrive à bien la mettre, à bien contrôler ça avec sa technique, mais je trouve ça honteux. Et quand tu regardes le rectangle des polos, il y avait plein de boue et tout, c'est inadmissible en D1 belge d'avoir un terrain pareil. Je trouve, c'est vraiment mon coup de gueule. C'est ok, Dender.
Après, t'as parlé de Dender comme un club qui avait pas de moyens.
Oui, mais Dender en joue peut-être aussi pour faire une différence avec les autres équipes. C'est ça, parce que les joueurs ils jouent là-dessus une fois toutes les deux semaines et tout, donc ça va être une force pour eux. Mais je trouve qu'en D1 belge, c'est honteux d'avoir un terrain aussi scintillant.
Pardon, je te coupe, mais même c'est même pas une fois toutes les deux semaines, c'est que Dender, eux, c'est un des seuls clubs en Belgique, peut-être le seul, mais je veux dire un des seuls pour être sûr de pas me tromper, qui s'entraîne sur ce terrain-là.
Ah, c'est encore
la semaine. Toi, ils ont pas d'autres terrains pour s'entraîner, ils s'entraînent sur ce terrain-là. C'est aussi pour ça que la qualité du terrain, c'est inadmissible en D1, toi, mais.
Il y a beaucoup trop de rebonds, hein, Xavier, c'est ça le problème.
Bah, limite, t'as l'impression de voir un terrain de provincial, quoi.
Et encore, en provincial, les terrains sont meilleurs.
Ouais. Bah, l'herbe, elle est trop haute. J'avais l'impression qu'elle avait pas été coupée, l'herbe. Je sais pas si vous avez vu, mais l'herbe était assez haute comparée aux autres terrains.
Mais ça, c'est pour ralentir la trajectoire de balle. C'est pour faire en sorte que les ballons ne fusent pas si ils partent en profondeur. Et peut-être que c'était une stratégie qu'ils savaient effectivement qu'ils allaient peut-être être pris de vitesse par notamment la profondeur d'un Utunji, ce qui a été le cas d'ailleurs sur le but, la belle transmission de Kouavita et derrière la vitesse d'Utunji pour faire la différence. Camara également, ouais, tout à fait.
Moi, à mon faible niveau, j'étais un milieu offensif. Je me mets à la place d'un Camara qui est un joueur technique et qui veut faire une conduite de balle là-dessus, c'est impossible. T'arrives déjà là, tu dis déjà, ouais, mon match, ça va être une galère. Ouais. Ça va être une galère. Je sais pas conduire la balle. Je sais pas arriver en un contre un qu'un joueur et essayer de le dribbler. Je vais aller à droite, le ballon, il va partir à gauche.
En tout cas, je trouve très intéressante ta réflexion, sur, je donne peut-être un petit scoop, mais elle est intéressante parce que sur le manque de dynamisme et de solidarité entre le gardien et la défense centrale, parce que c'est une conversation que j'ai eue avec Ivan Leko, qui m'a dit exactement au mot près la même chose que toi sur le match Charleroi Standard. J'ai parlé avec lui, il m'a dit mais c'est fou qu'à un moment donné défenseurs centraux, à la limite sur un arrêt qu'avait fait en fait Bazounou contre Charleroi, en fait ne viennent pas lui dire bravo, félicitations, c'est bien, on continue, mais ils viennent complètement l'harceler en lui disant mais oui mais t'as laissé un espace, c'est de ta faute si ça se passe, etc. En fait il y a un manque de cohésion complet entre les deux parties qui fait que ça a un vrai impact à un moment donné sur la fin de la rencontre. Pourquoi? Parce que t'as pas envie de te battre jusqu'au bout du bout pour ton coéquipier, t'as pas envie de te battre pour justement aider ton partenaire. Et là, forcément, ça a une conséquence. Ce match nul, est-ce qu'il est quelque part un peu logique au regard de la rencontre? Parce qu'on a vu qu'en seconde période, c'est quand même Dender qui poussait Thomas.
Ouais, moi je parlais surtout de la première mi-temps. Je trouvais que le Standard avait plutôt dominé Dender lors de la première mi-temps. Mais je trouve que Dender n'a pas forcément... Enfin, ils ont eu des grosses occasions, mais je trouvais que le Standard était plutôt correct dans son match. Mais pour revenir juste vite fait sur Repolo... Leko a annoncé qu'il allait rester titulaire. Je ne sais pas si vous avez suivi l'info, mais il va garder sa place. Donc, c'est aussi intéressant à savoir. D'ailleurs, il était blessé, Bazounou.
Fait, ce n'était pas entraîné pour une légère douleur. Après, c'est vachement. Après, il faut voir les clauses qu'il y a dans les contrats quand c'est un prêt et tout. Mais clairement, Bazounou, il n'y a aucun avenir au Standard. Et Polo, il y a plein d'avenir. Soit tu le fais jouer et tu le gardes, soit tu le fais jouer et il augmente sa valeur marchande et tu le vends cet été. Donc, ils ont le Standard, s'ils sont intelligents. Et qu'ils peuvent le faire d'un point de vue contractuel avec Bazounou, s'ils devaient pas jouer X minutes de jeu, on sait jamais ce qui peut se passer dans les contrats, mais ils sont tout s'ils sont intelligents, ils doivent faire jouer Polo, il y a pas...
Au Standard, ce qu'on me dit, c'est que s'il y avait pas eu, justement, ce problème avec Bazounou et Polo, et qu'on aurait gardé, par exemple, un Bodard ou alors même un Kiné qui n'avait pas été blessé, il y aurait eu les playoffs. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Ouais, ça c'est facile à dire maintenant.
Non, mais le Standard qui dit ça. Moi, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit le Standard?
Ces deux premiers matchs de Bazounou, on s'en souvient, c'était plutôt catastrophique, mais les trois points qu'ils prennent à Bruges, c'est en grande partie grâce à lui. Donc c'est du 50-50. Je suis pas forcément d'accord, même si je suis complètement d'accord avec le fait que Epolo, et je l'ai dit toute la saison, devait rester titulaire. C'est, pour moi, c'était incompréhensible qu'on aille chercher un Bazounou, ça n'avait aucun sens. Mais de là à dire que si on avait joué avec Epolo, on serait en playoff 1, c'est limite.
Les joueurs ne se projettent plus vraiment. J'ai plus l'impression qu'ils sont, j'ai l'impression qu'ils sont pas au pilote automatique, en fait, certains joueurs. Ils ont plus vraiment envie. Enfin, tu vois, j'ai pas l'impression que Camara, par exemple, est à 100% dans le match.
Il
fait plus la différence.
Il était hors match,
Ça fait plusieurs matchs.
Ouais. Bah, depuis qu'il a choisi le Sénégal.
C'est vrai.
Je pense pas que c'est lié à ça. C'est plus lié à sa situation personnelle et au choix qu'il a fait dans sa carrière, mais. La réalité, c'est que c'est quand même compliqué, encore une fois. C'est une réflexion qu'on se faisait la semaine dernière, mais un club comme le Standard doit, à un moment donné, pouvoir jouer le haut de tête, doit pouvoir, à un moment donné, se dire que logiquement, il y a l'Europe à faire. Le club est, en plus de ça, même si dans des situations relativement compliquées, en train d'être en phase de rachat. Donc, il y a quand même, logiquement, l'espoir de se dire, mais on a envie, un, de s'installer dans ce projet, deux, d'aller rester en Europe, trois, de faire les choses. C'est tout l'inverse.
Impossible.
Logiquement, on devrait pouvoir se projeter sur un avenir européen. Là, on n'a même pas envie de le faire, j'ai l'impression, du côté des joueurs. On ne s'imagine pas européen.
C'est impossible. Je suis pas d'accord avec toi. Pour moi, c'est impossible parce que quand t'as un flou aussi monumental sur le club, sur la gestion, sur la vente et qui repousse la vente et tout, c'est impossible de se projeter. Et l'année prochaine, le Standard, j'espère pour eux qu'ils vont ici être vendus, qu'ils vont trouver quelqu'un d'intéressant, de juste et de droit pour reprendre le club. L'année prochaine, il faudra pas s'attendre à grand chose. Ça va être une année de transition et c'est pourquoi la phase classique arrivera que là ils devront être prêts, mais là tu peux rien espérer du Standard quand ta base elle est pas bonne, quand ta base elle est pourrie, tu peux rien espérer d'après.
Surtout pour le moment, on est plutôt en train de parler de vendre des joueurs pour pouvoir avoir une certaine masse salariale et une marge de transfert plutôt que d'investir et d'injecter de l'argent en plus que le Standard n'aurait pas. Donc voilà un peu la tendance actuellement au Standard. C'est pas nécessairement le plus réjouissant possible pour l'avenir d'un des plus grands clubs du pays. Quand même, c'est quand même assez compliqué et quand même avec un public extraordinaire, mais qui quelque part n'a pas, je dirais, les résultats, l'équipe, la situation qu'elle mérite aussi. Le Standard est un peu dans une situation compliquée. Je voulais faire une petite parenthèse sur Charleroi. On a quand même pas mal perdu des points bêtement à Westerlo avec la égalisation en dernière seconde.
Pour moi, Westerlo...
Est-ce qu'on joue pas avec son bonheur, en fait?
Moi, il y avait une nonchalance incroyable de Charleroi lors de cette rencontre. J'ai compris des camarades Zorgan sur un des tirs, je pense que c'était... Je me souviens plus qui c'était. Mais il y a Zorgan qui fait une petite talonnade pour faire une passe à Camara. Il rate sa passe. Camara qui regarde comme ça et qui court pas après le ballon, qui laisse tirer le joueur. Heureusement que De La Vallée fait un très bel arrêt. Mais... c'est franchement la nonchalance, ça va vraiment leur porter défaut. Hein.
C'est comme ça, toi. La semaine dernière, encore on en discutait. C'est chaque fois Charleroi il gagne un match, on se dit ah Charleroi est lancé. Et on avait dit quoi? On va faire attention. La semaine prochaine, vous verrez, ils vont certainement faire un mauvais match.
Tu prends un but.
Bah après, ils ont pas fait un top match, c'est clair. Mais il y a de la, il y avait même Mbenza a été hyper nonchalant. J'ai parlé de Zorgan et Camara, mais lui aussi. Mais c'est dommage vu les circonstances de prendre un but à la toute dernière seconde du match et surtout de cette façon-là parce que c'est le gardien qui fait l'assist.
Ouais, c'est ça. Non, franchement, c'est dommage parce que on a vu franchement une équipe de Charleroi qui pouvait montrer de très belles choses et encore une fois, on retombe dans nos facilités. Et surtout, moi, j'ai même pas l'impression que c'est une question de talent. C'est-à-dire que s'ils gagnent, on dit bon, bah ok, ils ont été bons, mais ils ont gagné. Mais là, mais c'est vraiment une question. J'ai l'impression qu'ils se sabotent eux-mêmes.
Ouais,
quoi.
C'est de la nonchalance.
Tu vois ce que je veux dire, Quentin?
Ouais, bien sûr, bien sûr. Ça, de toute façon, c'est l'image de Charleroi. Comme on l'a déjà dit ça depuis le début de la saison, ça sera comme ça tout le temps que Charleroi. Et si ça se trouve, ils jouent un match très important contre Malines, ils vont gagner. Puis le match d'après, ils vont encore faire. Charleroi n'arrive pas à trouver cette régularité. Et on l'a déjà dit plusieurs fois, avec cette régularité, ils étaient à la place de la Gantoise. Hein.
Ah oui, alors, clairement. Juste une petite question, parce que ça, c'est intéressant. C'est le cinquième des playoffs 1 qui affronte le vainqueur de l'Europe Playoff ou c'est le quatrième des playoffs 1 qui affronte le vainqueur de l'Europe Playoff?
C'est le quatrième. Ouais. Et donc, c'est le premier entre Anderlecht, Antwerp et la Gantoise qui se battra pour un avenir européen. Attention aussi qu'il y a la finale de la Coupe de Belgique entre Anderlecht et le club de Bruges qui donne un ticket
supplémentaire.
Donc, il faudra voir aussi avec ça.
Ce sera le 4 mai prochain, de mémoire.
C'est ça, le 4 mai, exactement.
Le 4 mai
prochain. Quand tu vois le niveau de la Gantoise, Antwerp et Anderlecht, il y a de quoi faire pour Charleroi, Malines ou une autre équipe.
Mais c'est la réflexion que je me fais parce que j'ai regardé la Gantoise, Antwerp. Franchement, la Gantoise fait un match bon. Samaritain. Ils ont un gardien, effectivement, qui fait le travail. Et collectivement, ils arrivent à respecter une certaine expérience, maturité. Ouais. Mais en fait, ça se tape très, très fort. Hein. Ouais. Quand on regarde Anderlecht, Antwerp et la Gantoise, j'ai même envie de vous donner un petit avantage à la Gantoise, collectivement.
Moi, je préfère le jeu de l'Antwerp. C'est eux qui m'ont le plus séduit cette saison. Bah, franchement, si Van
der Meer fait pas tous ces arrêts-là,
il gagne le match.
J'ai peur d'une chose à l'Antwerp. C'est l'ambiance. Je sais pas si vous avez écouté l'interview de Michel-Ange Balikwisha.
Non, mais tu vas nous en donner le propos.
Après le match, waouh, ça m'a choqué. La façon dont il a parlé de ses joueurs, de ses coéquipiers, il a expliqué comme quoi les erreurs c'était en défense, comme quoi c'était la faute de la défense et tout. Puis après le journaliste lui a quand même dit ben vous avez pas marqué. Donc il dit ouais on n'a pas marqué mais on en a mis deux contre Bruges donc ça prouve que nous on sait le faire offensivement. Et il dit moi j'ai été bon et tout. Mais il a insinué mais tout le monde ne sait pas l'être. Franchement moi je suis coéquipier de Michel-Ange Balikwisha. J'entends cette interview où il se dit moi j'ai fait le boulot, la preuve, moi je suis fatigué, j'ai tout donné. Il y en a qui devraient. C'était il a descendu ses coéquipiers après. Wow. Il se dit peut-être il y a pas beaucoup de ses coéquipiers qui parlent français donc qui écoutent l'interview en français. Mais j'espère pour lui. Parce que franchement, c'était vraiment chaud. C'était vraiment un ego. J'étais choqué.
Ouais, il a profité du fait que.
Il a un ego, mais là, franchement, de dire ça, dire ouais, les problèmes, c'est ta défense, l'attaque, ça va bien, on n'a pas marqué ici, mais on a marqué contre Bruges. Moi, j'ai tout donné, mais il y en a qui devraient faire pareil.
C'est de famille.
C'est chaud, quoi. J'ai fait les bonnes.
C'est de famille, c'est vrai. Les deux Balikwisha, ils ont un ego surdimensionné.
Quand il dit, moi, j'ai créé les occasions, mais ils n'ont pas su les mettre au fond. Ah, c'est chaud, hein.
Ouais, c'est compliqué. Mais surtout qu'on l'a senti dans le match lorsque le but qui ensuite est annulé de Mohamed Bayo survient. Il y a quand même une petite célébration, mais entre Bayo, Balikwisha, tu vois ce que je veux dire, ils sont tous ensemble dans une espèce de petit carcan. Je me demande s'il n'y a pas des clans, effectivement. Ta réflexion est très bonne parce que derrière, elle peut nous permettre d'aller un peu plus loin dans la réflexion.
Clairement, quand tu vois ça, c'est clairement, tu vois qu'il a un problème avec des joueurs dans l'équipe. Donc ça peut être un défaut. Et il faut pas l'oublier. Faut pas oublier un truc, c'est qu'Anderlecht, ils ont joué contre les trois de devant. Donc, on va voir maintenant, ils vont tester. Les quatre prochains matchs, c'est à chaque fois aller-retour contre la Gantoise et l'Antwerp. Et donc, c'est là maintenant qu'on va pouvoir juger l'Anderlecht qui joue à chaque fois ici. Et ça reçoit en plus deux fois l'Antwerp puis la Gantoise. Et puis, ça va à l'Antwerp et ça va à la Gantoise. Et donc, c'est là qu'on pourra voir le niveau d'Anderlecht.
Donc, tu trouves que la Gantoise et Anderlecht jouent mieux que l'Antwerp?
Dit joue mieux, je parle, c'est un tout. Pour moi, je pense que c'est hyper important de prendre l'ambiance, le collectif, pas uniquement les performances sur le terrain. La Gantoise, c'est capable du meilleur comme du pire, ça peut être un non-match. L'Antwerp a montré de belles choses, notamment la deuxième mi-temps contre Bruges. J'ai vraiment bien aimé, et notamment des joueurs qui peuvent être intéressants. Mais Anderlecht, on peut pas les juger parce qu'ils ont joué contre les trois meilleures équipes du pays. Donc ça, on en reviendra plus tard.
Non, mais c'est intéressant votre propos. Moi, je pensais à toi, Thomas, parce que tu as été, et tu as raison d'ailleurs, assez élogieux cette saison à l'égard de Zeno Van den Bosch, qui est un excellent défenseur central belge et qui, je pense, a un bel avenir. mais j'ai un peu l'impression qu'il est surtout tout seul.
Ah mais là il est tout seul
à lutter avec des défenseurs centraux qui sont pas au même niveau que lui quoi.
Là on le voit à son pire niveau je pense parce que bah déjà il a pas son coéquipier de la saison. Enfin si t'es associé à Alderweireld toute une saison et d'un coup tu t'es associé à un Bozinov qui joue très mal pour moi et après avec un Odoi qui n'est absolument pas défenseur central, c'est compliqué de s'adapter mais après il essaye de faire ce qu'il peut, je pense.
C'est un peu la crise hein, du côté de l'Inter. Enfin, j'ai pas vraiment l'impression que c'est une équipe qui nous donne à venir un vrai avenir. Vous voyez ce que je veux dire?
Mais moi, je vous dis, les gars, cette saison, moi, je les ai vus plusieurs fois. Il y a vraiment des matchs où je me suis dit, punaise, offensivement, j'aime vraiment ce qu'ils apportent. Mais c'est comme Charleroi et comme le disait Xavier, et comme toi, tu l'as déjà dit aussi, c'est pas.
Est-ce qu'ils ont pas le syndrome Union, Thomas? Est-ce qu'ils ont pas justement pris la pétante avec un excellent pic de forme au début de saison et là, ils sont en train de subir un peu le contre-coup?
On va pas comparer l'Union et l'Inter.
Non, mais est-ce que en termes de pic de forme, on n'est pas sur la même tendance? Ouais. Je suis pas en train de les comparer, je te parle de les tendances.
Non, parce que je pense que bon, il y a déjà une crise interne au niveau financier, donc je pense que ça joue aussi. Le recrutement a été assez, enfin, les deux dernières saisons, le recrutement, il se fait sur base de prêts ou sur de joueurs libres, je pense à Thierry ou à un Bayo.
Changement de coach.
Changement de coach aussi. C'est catastrophique le changement de coach. On en a déjà parlé. Et je pense qu'il y a plusieurs choses qui font que. C'est quand même assez étonnant parce que la saison où ils ont été champions, ils ont remporté la coupe et qu'ils sont partis en Ligue des Champions, enfin, tu prends de l'argent, quoi. Et où cet argent?
Et on ne sait pas. En attendant, moi, je sais où était pancarte. Prends ta pancarte. Évidemment, on va passer à la prochaine phrase, bien évidemment, celle qui concerne le gros match de ce week-end, KR Sechen contre le club de Bruges, sauvé par un penalty de Maxime de Kuyper dans les derniers instants. Ce club de Bruges n'est pas plus fort que le KR Sechen et est extrêmement chanceux d'avoir pu gagner ce match. Je répète, ce n'est pas mon avis, c'est une phrase. Et donc, est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord avec cette phrase? Extrêmement chanceux, pas d'accord. 28 tentatives pour le club de Bruges ce week-end, c'est quand même énorme. Ils sont vraiment énormément tentés. Du côté du KR Sechen, on a lutté jusqu'à la dernière seconde et ce penalty mérité, bien évidemment. Thomas, qu'as-tu pensé de cette rencontre?
Bah, j'ai bien aimé Bruges et ça confirme aussi ce que j'ai dit par rapport à la semaine dernière, c'est que Genk manque vraiment d'expérience. C'est vraiment entre les matchs à domicile, les matchs à l'extérieur, je trouve que c'est, des fois c'est vraiment le jour et la nuit. Enfin, je les ai pas vus Genk. On les a vus les 10 premières minutes. Après, dominé par Bruges de A à Z. Bruges avait gagné ce match 3-0 facile.
Pourtant, le coach a fait un choix en mettant Karatsa sur le banc et en mettant Rozovski pour justement essayer de contrer ce manque d'expérience.
Il change tout le temps son milieu de terrain où il change toujours quelque chose. C'est jamais la même.
Oh, bah, Stoltenberger, je pense qu'il va revenir dans le 11.
Ah ouais, non, bah, de toute façon, déjà, l'occasion qu'il rate à la fin.
La carte jaune dès qu'il monte au jeu, il te fait monter à ton milieu def. Il prend une carte jaune dès le début, puis après, il provoque le penalty, il rate l'occasion. Ah ouais, lui, c'était très son jour.
Xavier, sur ce match?
Bah, comme Thomas l'a dit, en fait, au final, c'est que Genk, on les a pas vus, quoi. Si, le premier 10-15 premières minutes, et puis après, on a vu que Bruges. En deuxième période, faut limite se poser la question si Genk a réussi à passer le milieu de terrain. C'est voir la supériorité du club de Bruges. C'est vrai que Genk a fait une bonne saison, mais il jouait que le championnat. Les autres clubs, que ce soit l'Union ou Bruges, ils jouaient la Coupe d'Europe. Donc, c'est vrai qu'ils ont perdu des points aussi. Mm-hmm. Et clairement, la jeunesse de Genk, et on l'a déjà vu dans d'autres matchs, ils sont pas encore armés. Ils ont pas assez d'expérience, je pense, pour aller chercher le titre. Non. Et dans les gros matchs comme ça, tu les vois. Mm-hmm. Moi, ça me rappelle d'un match, c'était, je pense, Genk Union Sajuba au milieu de saison, où on voyait vraiment Genk qui était encore trop jouette, ils prennent 2 ou 3 goals. Pourquoi? Parce qu'ils essayent de ressortir, faire des petits dribbles devant leur rectangle. Ça, c'est les petits détails qui font la différence dans les gros matchs où tu ne peux pas commencer à jouer, tu dois jouer différemment. Et lors des gros matchs, tu dois être là pour gagner et pas pour jouer, faire la jouette sur les matchs et tout ça. Et ici, on l'a vu, face à Bruges, Genk qui était inexistant. Je dis, deuxième mi-temps, tu sais même pas s'ils ont passé le milieu de terrain. Et on en parlera plus tard pour mon joueur de la semaine, mais moi, jusqu'au 0-0, pour moi, j'avais 2 joueurs de Genk, c'était un défenseur et le gardien. Si tu veux les mettre en avant, c'est pas pour rien, c'est qu'ils ont pas fait grand-chose pendant le match, offensivement.
Ouais, Quentin.
Ouais, je trouve dur parce que quand c'est à l'Union qu'ils ont fait ça. Parce qu'à domicile, ils ont battu l'Union. Ouais, à domicile, ils ont battu le club de Bruges. Et ici, clairement, l'idée de Genk, c'était d'aller prendre un point. Et jusqu'à la fin, ils avaient qu'à dire, atteint leur mission de prendre ce point. Mais ils savaient qu'ils allaient se faire dominer. Ils savaient qu'ils allaient manger plus de 2 en expected goals du club de Bruges. Mais ils arrivaient à tenir. Et c'était leur objectif, je pense. S'ils prenaient un point, c'était une mission réussie. Ouais, parce qu'à domicile, ils sont invaincus. C'est la seule équipe invaincue à domicile. Et c'est là qui seront intéressants à voir, je trouve. Donc, je pense qu'on a été aussi dur à ce niveau-là sur eux. C'était logique qu'ils aient l'espace de dominer. Et si le club de Bruges n'arrive pas à dominer cette rencontre à domicile, je pense que le vrai problème, il aurait été là.
Il y a quand même un génie tactique, je trouve, de la part de Nicky Hayen. On met pas souvent en avant son talent. Mais en dehors de, effectivement, d'avoir gagné la bataille du milieu de terrain, il a quand même beaucoup empêché Zakaria Louadi, notamment d'aller sur ses côtés, etc. Il y a eu un gros travail défensif pour pouvoir avoir une double couverture parce qu'on savait que Maxime de Kuyper allait avoir plutôt des velléités offensives intéressantes. On a beaucoup travaillé là-dessus et je pense qu'à un moment donné, offensivement, Onyedika, c'était compliqué, mais défensivement, il a vraiment bien compris ce que son entraîneur lui demandait.
Ouais. Mais ils ont beaucoup Ayen sur cette rencontre a beaucoup travaillé avec Sab aussi. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il a eu des phases offensives. Ouais. Assez étonnante, il y avait beaucoup de phases qu'on voyait que ça a été construit à l'entraînement.
Il revient de loin, hein. Voilà.
On voit
qu'il était incertain, en plus.
Ouais, on voit qu'il y a eu des phases offensives qui ont vraiment été travaillées lors des entraînements. C'était vraiment, je pense, c'était un jeu d'échecs pour lui, Ayen, et c'était vraiment sa dame pour lui, Sab, j'avais l'impression. Même sur un des corners, on voit que Maxime de Kuyper fait une passe en retrait de loin. Il y a un tir, il passe rien incroyable. De la lucarne. C'est toutes des choses. On a voulu jouer autour de Sab et ça a été fait de façon très intelligente, je trouve, à plusieurs reprises. Même des phases offensives où il fait des touches en un temps, des longues transversales. Mm-hmm. Il y avait vraiment des trucs très intéressants de son côté à lui.
Bon, on a parlé du milieu de terrain, on a parlé des côtés, mais sûr, on ne peut pas éviter Mike Penders, hein.
Oui.
C'est une performance exceptionnelle qu'il a faite. D'accord, le KRC Kek n'est pas venu au bout de cette rencontre, ils ont perdu. Mais quand on voit le joueur et l'impact qu'il peut amener sur un match, lui qui était très jeune et déjà la maturité qui peut être la sienne dans ce type de match, on se dit que on comprend pourquoi Chelsea a mis 20 millions d'euros cet été pour pouvoir le faire venir dès la saison prochaine.
Ouais, il fait un peu penser à Courtois. Il y a certains moments, il y a aussi la carrure, la taille, c'est même un peu la même tête.
Ouais, c'est vrai.
C'est un peu, ouais, il a fait.
C'est peut-être un PNJ, on ne sait pas.
C'est son bonhomme de ChatGPT.
Exactement, tout à fait.
Non, je pense qu'il a fait vraiment une très belle rencontre. Mais Chelsea a mis 20 millions en début de saison, mais personne connaissait son réel niveau. Moi, honnêtement, je ne savais pas ce qu'il valait. C'est que maintenant qu'on découvre ce qu'il. Donc c'est maintenant qu'on peut forcément juger et donner notre avis, mais c'est en effet un excellent gardien, même si à la fin il aurait pu arrêter le penalty, mais on peut
ça
pas lui en vouloir.
Ça passe vraiment rien du tout, il la touche.
On peut pas lui en vouloir.
C'est vraiment très compliqué.
C'est pas à cause de lui qu'il perd ce match en tout cas.
C'est sûr. Puis parfois j'ai l'impression qu'au Jan Breydel Stadium, il y a même le vent qui joue pour Bruges. À un moment donné, là, c'est joué tellement un fifrelin sur la puissance, la manière dont il arrive à se plonger, il la touche, mais vraiment du doigt. Enfin, voilà, c'est une question d'énergie et de moment. Et je pense que c'est pas nécessairement le moment du KRC Kek, qui a quand même des difficultés, je trouve. Dans cette position du chassé. À un moment donné, on peut dire ce qu'on veut, hein. Mais cette position de numéro un au début des playoffs, c'est maudit. C'est maudit, hein. Vraiment, ça donne de l'impact et de la puissance aux chasseurs. Et derrière, ça te tire, en fait, en énergie parce que t'es toujours en train de regarder derrière. Et tes poursuivants sont en train, eux, de regarder devant. Ça a des conséquences claires.
Ouais, les poursuivants n'ont pas forcément grand-chose à perdre, donc ils vont tout donner. C'est une mentalité complètement différente. Ceux qui sont premiers ont une certaine crainte, une peur d'être attrapés. Et ceux qui sont derrière ont justement cette force de dire « Ah, on peut les rattraper, on peut encore faire quelque chose. » On démarre en 2-3e et on peut encore les rattraper. On l'a vu avec Bruges la saison dernière, on peut en revenir.
Ouais.
Mais en tous les cas, cette rencontre face à Bruges, ça confirme aussi ce que j'ai dit la semaine dernière. Genk ne sera pas champion.
Thomas l'avait dit,
c'est
on peut
pas la
dire.
Phrase, hein, on l'a
il l'avait prédit, non, on va pas mettre la phrase. Mais par contre, c'est intéressant de s'arrêter là-dessus. Prochain match, Derby des Flandres. Match toujours très important, intéressant. Ce sera du côté de la Gantoise. Planète Group Arena, c'est comme ça que ça s'appelle maintenant.
Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est le Genk Union. Le Genk Union à Genk, moi j'aime bien voir dans l'avenir préparer des matchs qui vont avoir lieu et tout. Le Genk Union, c'est incroyable parce que Genk est sur une série d'invincibilité, l'Union qui est en pleine bourre, il roule sur tout le monde. Donc je pense que ça va être
peut-être le match de Anouar Etelhadj, auteur d'un but, une passe décisive le week-end dernier. Tu voulais en parler?
J'en parlerai plus tard, t'inquiète.
T'en parleras plus tard. Non, parce que c'est pas ton jour de la semaine. Donc
non,
tu peux le faire maintenant.
J'en parlerai
si
dans la patte de l'expert.
Ok, il en parlera dans la patte de l'expert. C'est parti. On va nous parler du match de la semaine, messieurs. Le match de la semaine, évidemment, c'était le derby bruxellois. C'était du côté du Stade Joseph Marienne. Victoire de l'Union Saint-Gilloise 2-0 face au Sporting d'Anderlecht. Une victoire, j'ai envie de dire, qui souffre d'aucune concession, mais qui est pas très, en même temps, pas très enthousiasmant, j'ai envie de vous dire. Moi, cette victoire-là, je me dis, OK, l'Union a fait le boulot. Ils ont mis en place l'agressivité dont ils avaient besoin pour marcher sur le milieu de terrain d'Anderlecht. Ils ont gagné, ils l'ont fait, sans être véritablement exceptionnels.
Ouais, mais ça, c'est, ça, moi, ça me dérange pas forcément. Certes, c'était la prestation la moins convaincante de ces playoffs, mais les phases de jeu, l'énergie, l'efficacité, elle est là depuis des mois. Donc, moi, ça me dérange pas. Je trouve que l'Union a très bien joué. Et de toute façon aussi, si le match a été un peu soporifique, on pourrait dire, c'est aussi en grande partie à cause d'Anderlecht parce que
ouais, ils n'ont rien
c'est
proposé.
Pire en pire, c'est de pire en pire. C'est dommage, hein, c'est très dommage, mais c'est parce qu'Anderlecht rend le match ennuyant et l'équipe adverse ne joue pas forcément à son meilleur niveau.
Alors, tu vas aller sur Anderlecht, je te donne une statistique évidemment. Bechnikazi, pire entraîneur de l'histoire du Sporting d'Anderlecht puisqu'il a débuté, c'est le premier entraîneur de Sporting d'Anderlecht à avoir débuté par un 0 sur 9. Xavier, est-ce que c'est mérité?
Bah en fait le souci c'est que il a pas de chance entre guillemets, il est arrivé au début des playoffs, il y a peut-être pas aucun entraîneur Anderlecht qui est arrivé juste avant le début des playoffs 1 et en plus de ça il se tape les trois meilleures équipes du championnat. Donc en final je pense qu'il y a beaucoup d'entraîneurs, t'aurais mis beaucoup d'entraîneurs à la place de Bechnikazi, il aurait eu le même résultat.
T'en attends le 0 sur 12 pour le critiquer, c'est ça que t'es en train de me dire?
Non mais en tout cas il se trouve que...
On parle du Sporting d'Anderlecht.
Oui mais de semaine en semaine je trouve qu'il y a pas beaucoup, hein. Je trouve qu'il y a léger mieux de semaine en... Ah léger, je dis pas beaucoup.
Le match face à Genk, ok, là il était bon, mais le match face à Lyon,
désolé. Bah Lyon, je trouve qu'en deuxième mi-temps, genre pendant un quart d'heure, après avec la rentrée de 2-4, je trouve que Anderlecht a pris un peu le jeu en main. Ils auraient peut-être pu revenir. Et puis après, ils prennent un deuxième goal sur un peu de réussite du côté de l'Union, même si l'Union mérite sa victoire.
Mais je suis étonné de ces propos-là de ta part. T'es quand même le seul mec à nous avoir dit que Dender jouait mieux qu'Anderlecht. Et là maintenant, tu dis oh ça y est, il y a un léger mieux.
Aujourd'hui ou puis.
Mais je comprends pas. Je comprends pas ton point de vue.
Bah je trouve que quand tu regardes Anderlecht toutes les semaines, je trouve que par rapport au premier match des playoffs et celui de l'Union et même le truc, je trouve que de semaine en semaine,
il y a une progression.
Il y a une progression pas énorme. Je dis pas du noir au blanc, mais je trouve qu'il y a une progression. Et je pense que Asie prépare tout doucement aussi la finale de coupe. Enfin, vous espérez pour eux, parce que
d'accord,
s'ils font pas ça, c'est compliqué.
Alors,
mais je dis pas qu'on
aurait
joué
bien. Je vais aller sur ton propos. Hein. Je vais aller sur ton propos. Définis-moi un axe de progression que le Sporting d'Anderlecht a fait depuis la semaine dernière.
Bah, moi, je trouve que collectivement, ils sont un petit peu mieux.
Ok, un petit peu mieux, mais collectivement, concrètement, ça s'exprime dans quoi? Est-ce que c'est les échanges? Est-ce que c'est l'esprit du groupe? Est-ce que c'est les performances individuelles des attaquants? Comment est-ce que tu me personnifies l'axe de progression d'Anderlecht?
Bah, moi, je trouve... À un moment, en deuxième période, je sais plus à quelle minute de jeu, mais c'était un moment en deuxième période quand c'est toujours que 1-0, à peu avoir le deuxième but de l'Union, il y a un moment où Anderlecht a essayé de prendre le match en main pour essayer de revenir avec l'entrée de 2-4, par exemple. Et par exemple, Anderlecht qui prend le jeu en main comme ça, ça fait combien de temps qu'on l'a pas vu, même si ça a duré que 10 minutes à quart d'heure.
D'accord.
Mais ça, on le voyait pas avant.
Ok.
Donc c'est déjà un petit axe de progression. Et comme je dis, la différence n'est pas énorme, hein, mais je trouve qu'il y a une légère progression du côté d'Anderlecht.
Moi, je pense que dans ce match, surtout, Anderlecht n'a pas pu jouer son football parce que l'Union ne l'a pas laissé jouer son football. On parlait tout à l'heure d'agressivité. Les supporters d'Anderlecht s'en sont plaints, notamment sur les réseaux. Moi, je parle justement d'une équipe de l'Union qui a joué avec ses qualités. Pourquoi est-ce que le Sporting d'Anderlecht n'est pas capable de répondre au défi physique qui est proposé par l'Union?
Bah, parce que tu joues comme milieu de terrain. Ici, quand tu joues contre l'Union... Asie, le problème, il a voulu jouer son dispositif à lui, avec un milieu à deux, avec un seul récupérateur. Tu joues contre une Union qui est quand même fort physique, qui joue avec souvent 2-6. Et il y a beaucoup d'équipes qui jouent avec 2-6. Si t'es pas dominant dans ton match, ce qui est plus le cas d'Anderlecht depuis de nombreuses années, tu joues 1-6 qui est moyen face à 2 bons 6. Sur certains, comme milieu de terrain, tu vas prendre l'eau.
Mais tu savais que t'allais te faire avaler. Pourquoi tu t'es pas préparé en conséquence, Quentin?
C'est ça, c'est un mauvais choix tactique. Tu peux pas mettre Yari Vorskaren dans ce milieu de terrain quand tu joues contre un Noah Sadiki et un Van de Peer. On l'a vu sur la récupération de Van de Peer sur le premier goal. La récupération qui fait hasard. C'est un gars qui en veut. C'est un gars qui a du mordant. C'est un gars qui a une détermination. C'est un gars qui se dit un derby, ça se joue pas, ça se gagne. C'est un autre mindset, c'est une autre envie. Il y a tout qui change. Et Yari Vorskaren ne pourra pas avoir l'abattage qu'un Van de Peer ou qu'un Sadiki dans ce milieu de terrain. Donc clairement, l'Union a marché sur ce milieu de terrain et a gagné cette bataille sans aucun doute.
C'est les qualités individuelles aussi des joueurs, je trouve, qui me pose quand même des questions.
Mais quand tu regardes le milieu de terrain de l'Union et celui d'Anderlecht, t'es sur un type de parcours complètement différent. Sadiki, Aitelach et Van de Peer, ce sont trois jeunes qui ont été formés en Belgique. Des jeunes joueurs en qui on n'a pas forcément cru.
Anderlecht.
Voilà. Donc c'est des joueurs que l'Union a été chercher dans d'autres clubs et qui donnent justement cette confiance à ces joueurs-là parce que leur club où ils ont été formés n'ont pas donné cette chance-là. Donc c'est un parcours complètement différent, mais ça me plaît parce que justement on parle de l'Union qui investit beaucoup dans des joueurs qui viennent des pays de l'Est ou d'Afrique, peu importe.
Mais ces joueurs-là, Promise David.
Voilà, mais ils vont chercher des joueurs aussi en Belgique et ça on oublie parce que j'ai aussi une petite normalement c'est ton rôle, hein, je le respecte, je reste à ma place, mais j'ai une petite info de transfert, je t'en ai pas parlez-nous plus, mais l'Union.
Bah vas-y, serre-nous.
L'Union est actuellement en train d'essayer de recruter un milieu de terrain de Club Next, donc de Bruges, un joueur que j'adore, un milieu de terrain aussi, un jeune qui a le même parcours que Van den Per, Aitelach et Sadiki. Il s'agit de Odor, Lint Odor.
Ah oui, super joueur.
Ouais, l'Union est actuellement en train d'essayer de recruter pour 1 million d'euros.
Ah bah voilà, c'est intéressant. Donc ça veut dire qu'à chaque fois ils vont chercher des joueurs dans des clubs,
enfin les top clubs, mais des joueurs qui n'ont pas leur chance ou pas assez dans des top clubs, et au final ça leur réussit parce que c'est des joueurs qui sont titulaires aujourd'hui.
Voilà, ça fera une séquence.
Et Van Hout aussi, c'est un joueur qui a été formé dans un club en Belgique. Ouais. Il y a plusieurs exemples comme ça.
Mais c'est intéressant, très intéressant effectivement. Et encore une fois, on voit que ces tentatives font partie même d'une stratégie qui vont créer une identité à un club. Aujourd'hui, l'Union Saint-Gilloise, dans cette rencontre, est un club qui a assumé son identité d'équipe battante, agressive, intense, qui vont en fait jouer avec leur qualité. Alors que Anderlecht n'a plus d'identité.
Oui, c'est une question d'identité.
On n'a plus d'identité, Anderlecht.
Non.
C'est un vrai problème. Hein. J'ai l'impression qu'on analyse ça, nous, avec fatalisme, parce que chaque semaine, on regarde les matchs et on se dit, bon, bah oui, c'est toujours la même chose. Donc, on le dit. Xavier nous dit, il y a une légère progression, machin, bazar. Sauf que le plus important, le fond, la base, le socle, ce qui va créer la pyramide, c'est réellement l'identité. Et elle est plus là depuis longtemps. Et j'ai pas l'impression qu'on a envie de s'attarder là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on ne crée pas une identité en changeant tout le temps.
Ah
c'est
oui,
ça,
c'est
la
ça.
Réalité.
C'est toujours changer de coach, ça n'a aucun sens. On en a déjà parlé 40 fois. Et même le choix, on en a déjà parlé aussi. Aziz, c'était pour un erreur de casting complet. Mais quand tu parles d'esprit et de mentalité aussi, désolé, quand tu vois ce que Hazard fait lors des derniers matchs, je le reconnais pas. Ça me fait, c'est horrible. Même un de nos cœurs tout au long de la saison, je l'ai pas reconnu. C'est tous des joueurs, comme je le disais, ils ont un potentiel fort dans cette équipe-là, dans ce noyau-là. Mais aucun joueur joue à son niveau, si ce n'est Kozemans.
Ouais. Et pourquoi aujourd'hui Anderlecht est devenu une équipe qui domine sans esprit de révolte, Quentin?
Qui domine
quand même dans le jeu. Je veux dire, à un moment, ils tentent de mettre un peu la balle. Je veux dire, en termes de possession.
Ouais, ils essayent plutôt. Voilà, c'est une tentative de domination. Ouais.
Oui, mais derrière, il n'y a pas d'esprit de révolte. C'est-à-dire que si tu perds le ballon, derrière, tu vas courir, tu vas faire un effort ou deux, mais tu vas pas nécessairement aller mettre le tac qu'il faut pour aller récupérer le ballon ou aller le foutre en touche.
Je pense que c'est pas un noyau ensemble qui est fait pour aller à la guerre ensemble, qui est fait pour gagner ensemble. Cet esprit de collectif, je trouve ça hyper important. Et notamment, tu parles d'Asie. Moi, ce que j'aime pas, c'est sa gestuelle sur le bord du terrain. C'est tout le temps négatif. Le positif attire le positif. Moi, je suis toujours dans cet état d'esprit-là. Et donc, c'est pas en rabaissant tes joueurs, en tapant ta bouteille comme ça, en t'énervant non-stop sur tes joueurs, sur n'importe qui, que ça va aller. Et donc ça, quand ton coach il pense comme ça, ben ça influe sur les joueurs. Et les joueurs, tu sens qu'ils sont pas prêts à faire les maîtres et les pas pour le coéquipier. Tu vois, donc c'est comme tu dis, individualité, ils ont des qualités. T'as un Dolberg devant et tout, mais est-ce que l'ambiance est là? Est-ce que t'as envie de travailler? Est-ce que t'as envie de mouiller le maillot pour ton joueur? Est-ce que Hazard il a envie de mouiller le maillot pour Mamar? Est-ce que Donker il a envie de mouiller le maillot pour Verskaren et tout? Et je pense qu'il y a vraiment ce manque d'esprit là. Et quand ça va pas comme ça, qu'est-ce qu'il faut pour redynamiser un groupe? C'est une victoire. Donc j'espère pour eux qu'ils vont gagner ce dimanche à la maison contre l'Antwerp, parce que contre, j'ose pas imaginer l'ambiance dans le vestiaire, dans le club, avec les supporters. Si tu perds à la maison contre l'Antwerp dimanche après-midi, c'est la catastrophe. Hein.
Tu perds la Coupe de Belgique hein, si tu perds ce week-end.
Ah, si tu perds le groupe, tu perds tout. Si tu perds ce week-end,
ils vont perdre la Coupe de Belgique.
Mais ce week-end, tu dois absolument gagner.
Bah, déjà, les chances sont très minimes pour qu'ils remportent la Coupe de Belgique. Okay. Mais si tu perds ce week-end, c'est que tu fais un 0 sur 12. T'as une ambiance horrible. Les joueurs ne sont plus du tout en confiance. Donc, comment tu veux remonter la pente en si peu de temps, parce que c'est le 4 mai, dans moins d'un mois,
deux
donc
semaines,
je sais pas comment tu vas faire.
Ouais, c'est assez dingue. Effectivement, il reste 21 points à prendre. Mais le Sporting d'Anderlecht va en prendre combien, Quentin?
Moi, je table sur un 7. 7 plus ou moins.
7 points sur 21?
7 points sur 21. Je pense que...
Tu les vois gagner à domicile?
À domicile, ils doivent battre l'Antwerp et la Gantoise. Et c'est les deux matchs juste avant la Coupe de Belgique. Donc, si t'arrives pas à gagner ces deux matchs à domicile avant de préparer la Coupe de Belgique, laisse tomber. C'est merci, au revoir.
Anderlecht va prendre 7 sur 21. Thomas, combien?
Bon, allez, on va dire 8.
8 sur 21, ouais, Xavier.
Bon, 7, 8, un truc comme ça.
7, 8 points. Donc, t'es positif, mais en fait, au final, dans les chiffres, t'es pas si positif que ça.
Le problème, c'est que déjà, contre le top 3, ça va être compliqué de prendre des points. Donc après, il y a plus que 12 points à prendre.
Tu penses pas qu'Anderlecht, à domicile, peut, par exemple, contre l'Union Saint-Gilloise, gagner?
En fait, ça dépend si, à ce moment-là, quelle est la circonstance du match. Je sais même pas quand tombe le match, mais genre si l'Union est déjà championne, ce qui pourrait arriver, toi, si c'est le dernier match.
Non, il tombe après la coupe. Parce que les deux derniers matchs qu'ils ont, ils ont gagné Bruges.
Ok.
Les deux derniers matchs.
Toi, donc ça tombe après la coupe, pour voir le résultat de la coupe aussi. Il y a beaucoup de choses, donc c'est compliqué, mais je pense, ouais, 7 points, un truc comme ça doit être réalisable pour Anderlecht, et plus c'est compliqué quand même.
Ouais, je pense que moi, je suis quand même un peu plus positif. Je pense qu'ils prendront des points à l'extérieur, à un point, à par-ci, par-là, ils iront les choper. Je dirais 10. 10 sur 21.
Pouah, t'es optimiste.
Je suis positif. Ouais, je suis positif parce que je pense qu'à un moment donné, ça peut pas être pire que ce que c'est. Mmh. Et actuellement, c'est littéralement cadavérique. Voilà.
Imagine, ils prennent 0 sur 6 à domicile contre Antwerpen et la Gantoise, c'est pire que ce que c'est.
Ah oui, là, ça sera largement pire, effectivement.
Mais là, je pense que ça sera plus belle.
Mais je n'ose pas imaginer qu'Anderlecht, à un moment donné, puisse continuer à descendre comme ça. C'est pas possible. Il faut qu'à un moment donné, il y ait un minimum d'esprit de révolte. On parle quand même d'un des plus grands clubs de Belgique. Et là, je suis désolé, j'ai pas l'impression de voir un grand club, quoi.
Je suis d'accord avec toi. Pour moi, ils doivent absolument relever la tête ce week-end.
Allez, on va passer à la patte de l'expert. Tu es prêt?
Bien sûr.
Allez, let's go.
Alors d'habitude, je fais un peu sur les équipes ou sur l'avenir. Et là, j'ai décidé de changer et je pars sur les joueurs. Et donc pour moi, j'ai analysé les game changers. Donc j'ai vraiment, j'adore ça. C'est le joueur qui pour moi peut faire la différence à lui tout seul. Et donc j'ai analysé 5 game changers qui pour moi pourraient avoir un impact très important dans leur statut de leur équipe cette saison. Donc en playoff 1, c'est pour être champion. Là, j'ai analysé 2 joueurs. J'ai Christophe Solis, qui réalise pour moi des playoffs incroyables.
Christos Solis,
qui peut être pour moi le game changer.
Christophe Willem, ça c'est un chanteur.
Christophe
Willem. Voilà, bravo.
Ah, vous allez tous les faire.
Ouais, c'est ça, exactement.
Et donc pour moi, c'est clairement le game changer du club de Bruges. C'est en première journée des playoffs, c'est buteur contre Anderlecht. Deuxième journée des playoffs, c'est buteur et passeur à l'Antwerp dans une victoire 2-3 très importante. Je suis sûr s'il est pas là, Bruges gagne pas. Et ce week-end, normalement, Bruges, il prenait un point. Mais il provoque ce penalty qui est très important, qui gagne 3 points. Donc pour moi, c'est le premier joueur. Le deuxième joueur de ces playoffs 1, c'est, on en a parlé, c'est Anouar Aïtelhadj. C'est pas titulaire lors de la première journée des playoffs 1. Il remplace Boufal blessé, il fait 2 passes décisives. Après, il est buteur à la Gantoise. Et ce week-end, victoire 2-0 contre Anderlecht, il est buteur et passeur décisif. Donc décisif dans tous les matchs de ces playoffs. Donc pour moi, c'est les deux game changers très importants. En playoff 2, j'en ai un. C'est un gardien, on n'en parle pas assez. Donc pour moi, c'est le gardien qui peut aider son club à gagner les playoffs 2 et donc potentiellement à aller se battre pour une place en Europe. C'est Martin Delavalle.
Ah, j'étais sûr qu'il allait. Formé à Moucron.
Je voulais la placer, mais je n'ai même pas eu le temps.
On va le préciser à chaque fois. Martin Delavalle, c'est 2 clean sheets, c'est clean sheet lors des 2 premières journées. Et ici, ce week-end, même si ça prend un point, il a quand même fait des arrêts qui rapportent un point très important pour Charleroi. Après, direction les playoffs 3, les playdowns. Et là, j'ai 2 joueurs game changer qui vont tout faire pour que leur équipe soit sauvée. Thomas va adorer. Le premier, c'est Kadri de Courtrai, qui était blessé en phase classique, qui est revenu à la dernière journée contre la Gantoise. Il fait un but et une passe décisive dans le 2-2 contre le Cercle. Concurrent direct, très important. Il fait un but et une passe décisive à Saint-Trond dans la victoire 0-3. Très, très importante. Et ce week-end, Thomas est au stade, passeur décisif dans les 10 dernières minutes de jeu, qui donne la victoire contre le Berscott, une victoire hyper importante pour essayer de se sauver. Donc Kadri, pour moi, est un game changer de Courtrai pour ce maintien. Et le dernier, on en a parlé souvent, c'est Bertacini. Bertacini qui est dans la première journée, qui est 2 fois décisif. Le deuxième match off complètement de Saint-Tron contre Courtrai, défaite 0-3. Et ce week-end, victoire 3-1, c'est 2 buts, une passe décisive. Donc c'est pour moi un game changer.
Thomas et puis Xavier, qui est actuellement le meilleur joueur du championnat?
Le meilleur.
Wow. Ah oui, là maintenant vous êtes excité, vous avez le cerveau qui tourne à 100% en turbine, vous allez me le donner. Qui est le meilleur joueur? Il a parlé plein de game changer, on va laisser Quentin tranquille.
Actuellement, vu la forme et on parle sur les 4 dernières semaines, on peut dire ça. Ouais. Parce que voilà, je dirais le meilleur joueur,
Il va dire Kadri.
Non, je vais pas dire Kadri, je vais dire David.
David, ouais. David.
Moi, Ardon Djachary.
Ardon Djachary. Je me lève.
Ouais, mais bon, ça reste. Ouais. Mais ça, c'est
évidemment, toute la saison, c'est excellent. Non, mais c'est super, c'est bien. C'est un mec qui connaît le football. Voilà. Ouais. Ça mais fait plaisir. Il sera déjà plus là la saison prochaine, et lui non plus. À mon
mais il a parlé de Aïtelhadj décisif dans tous les matchs des playoffs. Mais je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était la même chose la saison dernière face à Genk. C'est un joueur on voit pas du tout en phase classique, et dès que c'est les playoffs, il est remonté.
Ouais. Mais ça veut dire qu'il est meilleur qu'on les gros.
Ouais, ça c'est vrai aussi.
C'est vrai.
Mais ça veut dire aussi
qu'il manque de constance, et c'est pour ça que les grands clubs ne vont pas le chercher, ou qu'il réussit pas à chaque fois dans les
grands clubs. À voir où il a râlé, parce que là, ça fait quand même 3 matchs de suite, en playoff 1, qu'il est décisif.
Eh ben, on lui souhaite de continuer comme ça.
C'est ça.
Voilà. Et on passe maintenant, forcément, au Football Time Award. C'est l'heure des joueurs de la semaine qu'on va vous donner, vous proposer. On continue, bien évidemment, cette sélection avant d'arriver au final, à l'event de la fin de saison, qu'on a évidemment le bonheur de vous proposer. Il y a énormément de joueurs qui ont marqué beaucoup, beaucoup de points. Mais avant ça, un petit coup d'œil sur le classement classement général avec Thomas.
Rien n'a changé par rapport à la semaine passée, si ce n'est que Tsolis est rentré dans le top 10 grâce à son point offert par, je pense c'était toi, et le point bonus qu'il a obtenu grâce aux followers. Sinon, on est toujours sur un Bertacini qui est premier et qui va potentiellement prendre un point supplémentaire.
Exactement. C'est pour ça que je vais donner tout de suite la parole à Xavier. Ton joueur de la semaine, c'est donc
Adrien Bertassa, comme j'avais envie de dire.
Voilà, Adrien Bertacini, grande. Eh oui, Adrien Bertacini qui regarde l'émission. D'ailleurs, il aime beaucoup. Voilà.
Ouais, bah, je trouve que Sfokane, bah, comme l'a dit Quentin, a deux buts, une passe décisive, appliqué dans les trois buts de Saatron. Il fait une saison folle avec 18 buts, 3 assists pour un club qui se bat pour son maintien. Franchement, c'est fou, et même les deux goals qu'il met, c'est pas forcément facile à mettre. On dit que c'est facile face avec le gardien en un contre un, mais les gardiens, ça prend de la place. Il a aussi la pression de pas rater, surtout qu'ils jouent, ils peuvent pas se louper, ça a trop. Donc, je trouve, honnêtement, il a fait une très, très grosse prestation ce week-end.
18 ouais. buts, 3 passes décisives depuis le début de saison, c'est le meilleur buteur.
Oui. Ouais.
C'est quand même pas mal. Effectivement, qui va donc continuer à prendre des points et qui pourrait aussi prendre des points bonus si vous décidez de choisir pour, tout simplement encore Adriano Bertacini. Ce sera à vous, évidemment, de nous le dire, comme d'habitude, le jour après. Tac, la diffusion de cette émission, on se donne rendez-vous sur X et sur Instagram. C'est à vous de tout simplement donner le point bonus pour continuer ou pas la chevauchée en tête d'un certain Adriano Bertacini. On passe maintenant au joueur de la semaine de Quentin. Pourquoi ? Parce qu'il joue dans la même équipe.
Exactement, son coéquipier, Bilal Brahimi. Incroyable, ce joueur n'a rien à faire chez nous. C'est très fort. C'est très très fort, le goal qu'il met est sublime. Je trouve que la passe décisive qu'il arrive à mettre à Bertacini sur le 1-0 est vraiment très 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 belle. Mm-hmm. Et quand tu regardes, quand Saint-Trois, avant d'avoir tué le match, tout passait par lui. Tout passait par son côté droit. C'était incroyable. Donc je pense qu'il mérite mon point.
Allez, ce sera pour Thomas maintenant.
Vous êtes toujours d'accord avec ce que j'ai dit la semaine dernière que le cercle, enfin, je sais pas si vous étiez d'accord, mais moi j'avais dit que le cercle va passer à la trappe.
Bien sûr.
On s'oriente vers ça, on est d'accord.
T'es en train de lire l'avenir. Ouais, Madame Irma, Madame Thomas. Donc,
ouais, je pense que c'est Saint-Tron qui va finir premier. Les deux équipes sont vraiment meilleures. Et en effet, du coup, j'ai pris un joueur de Courtrai. On prend que des joueurs des pays là. Honnêtement, franchement,
vous êtes des hipsters, les hipsters du football belge, c'est vous. Messieurs.
Non mais honnêtement, moi, je sais pas pourquoi. C'est parce que c'est potentiellement grâce ou à cause de mon passé avec mon con, mais j'adore suivre le maintien. Je trouve que ça a beaucoup plus d'adrénaline que les Champions Playoffs. Je trouve ça tellement fou de suivre les clubs qui doivent se maintenir parce que c'est vraiment c'est ta survie.
Ou la montée en Challenger Pro League, c'est pour ça qu'on en a parlé en intro de cette émission.
C'est ta survie, c'est une ambiance complètement différente et moi j'adore. Hein. Franchement, j'adore suivre ça.
Ouais.
Et surtout quand des clubs genre comme Courtrai qui étaient quasiment condamnés et qui font une remontée, j'adore regarder ça. Moi, j'adore.
Tu aimes l'odeur du sang.
Ouais, j'adore.
Tu aimes l'odeur du sang. Tu es dans Koh Lanta.
J'adore les trucs improbables. Mais j'adore les trucs improbables, moi. C'est
incroyable.
C'est fou. Et du coup, Courtrai, j'ai pris un joueur de cette équipe, un joueur qui s'appelle Messatu.
D'accord.
Un
international. Nayel Messatu.
Voilà, international chilien pour ceux qui ne le savent pas.
Formé du côté du
Anderlecht.
Sporting d'Anderlecht.
Ouais, donc encore un joueur qui n'a pas eu sa chance du côté d'Anderlecht.
Et qui a réussi pour le moment. Et qui est capitaine quand même, du côté de Courtrai.
Justement, il est devenu capitaine assez récemment sous Storck. Et c'est un joueur qui a un rôle assez hybride, on peut dire. Il est vraiment partout. Il a vraiment pas de poste prédéfini. C'est vraiment, il s'est joué partout, ce mec. Il est
formé comme latéral droit, hein,
mais il joue plus en tant qu'arrière droit maintenant parce que c'est Duverne qui a pris cette place là.
Bien sûr.
Mais il joue partout au milieu de terrain. Il s'est joué à gauche, à droite. Il est très fort dans les infiltrations, dans les récupérations de balles, très technique. Il s'est marqué des buts parce que c'est lui qui a offert le but de victoire face au Berscott. Non, c'est un joueur très intéressant.
Sens le gamin inspiré par Arturo Vidal et Gary Medel. Hein, moi, je te le dis. Hein. Ou alors des mecs comme Mauricio Isla, etc. À l'époque,
il a pas
les Chiliens.
La même carrière, mais
Vois l'impact que pouvaient avoir des Mauricio Isla, des Arturo Vidal, c'est des joueurs d'impact qui vont à un moment donné faire des différences et qui savent être clutch dans les moments importants. Il l'a prouvé avec son but.
Et c'est un joueur qui pense à son club, c'est pas un joueur qui pense à son avenir personnel. Tu vois qu'il est vraiment dans le club, installé, qu'il est apprécié par tout le monde. Il joue pour les couleurs du club et ça fait la différence aussi.
Allez, moi je termine avec forcément le joueur de la semaine. Mon joueur de la semaine, c'est Camille Van de Peere, tout simplement. Pourquoi ? Parce que son impact, notamment lors de la récupération sur le but, le premier but de l'Union Saint-Gilloise, est absolument décisif. Il s'est fait une place de titulaire très très rapidement. C'est un joueur que j'avais déjà mis en avant dans Wait and See, donc je suis assez certain de mon fait. Selon moi, il va vraiment pas faire long feu du côté de l'Union Saint-Gilloise. Il a tout en termes d'intensité, en termes de récupération, je l'ai dit, d'impact pour grandir dans un championnat comme la Bundesliga, voire même comme l'Italie. Parfois, sur certains aspects de récupération, je me dis, je le verrais bien dans un système un peu à la Simone Inzaghi. Il a évidemment pas du tout le niveau pour l'Inter à l'heure actuelle, mais c'est un joueur qui va pouvoir, à un moment donné, faire le saut de qualité pour aller dans un grand européen. Ça, j'en ai évidemment aucun doute. Et surtout, surtout, c'est un joueur qui a la tête sur les épaules. Grosse humilité. Et c'est des joueurs dont on a besoin dans un collectif pour avancer, que tout le monde ne pense pas que à sa pomme. C'est le genre de mec qui va laisser son t-shirt, ses crampons, ses chasubles et également ses protèges tibias sur le terrain s'il le faut pour ses coéquipiers.
C'est très intéressant de voir la gestion que Pocognoli a de lui et la confiance surtout parce que ça fait quand même 2 semaines que Charles Van Hout est revenu, que Charles Van Hout est sur le banc et que Charles Van Hout doit le remplacer en fin de match. Mais donc c'est quand même d'un joueur qu'on parlait qui pouvait être qui est international belge, qui était le joueur de l'Union de ce milieu de terrain. Il l'a quand même mis sur le banc et là il presse donc il garde sa place. Donc
ouais, parce que t'as parlé du premier but mais on oublie le deuxième but. Il est aussi à l'auteur de la récupération de balle sur le deuxième but. Il fait l'interception avant que la balle file dans les pieds de je pense que c'est Sadiki et ouais. Après Castro Montes ouais. qui va vers Aitelach. Donc il est auteur de 2 récupérations de balle qui amènent un but.
Il va important. Devenir un top class player. Il a un très très gros potentiel. Camille Van de Peer. On va passer maintenant évidemment, n'oubliez pas, on vous le rappelle sur X et sur Instagram, donnez votre point bonus sur tous les joueurs. Donc Camille Van de Peer, Adriano Bertaccini, Bilal Brahimi et donc Nahiel Messaoud pour Thomas. Ce sera à vous de voter, bien évidemment. On passe donc, je le disais, au temps additionnel. Quels sont les joueurs qui vont performer ce week-end, Quentin ?
Alors, pas de play-down ce week-end. Donc, je fais une analyse des play-offs 1 et des Champions play-offs et des European play-offs. Alors, pour les play-offs 1, je tente ma chance avec Colin Kuzmans. Je me dis qu'à domicile, Anderlecht, quand même 44% de clean sheet à domicile, devrait garder le zéro derrière. Après, il y a Mats Metz qui est intéressant, surtout à domicile au niveau des datas défensives. Il est très très fort. Il avait réalisé des gros scoring lors de la réception de l'Union. Et je mets son adversaire, Anouar Aitalach, que j'en ai parlé précédemment, qui est souvent décisif dans ses playoffs. Donc à voir s'il continue dans cette forme, dans cette dynamique. Au niveau des playoffs 2, je mets 2 gardiens. Je mets Martin de la Vallée. Ah non, pardon. Je mets Tobeleisen. Je mets Tobeleisen à domicile contre Dender. C'est 50% de clean sheet pour l'OHL. Très important. Et une autre équipe qui a 50% de clean sheet à domicile, c'est le Standard de Liège. Thomas l'a dit. Mathieu Polo devrait être encore titulaire ce week-end.
Match à domicile face à Westerlo.
Exactement. Et donc, un potentiel clean sheet. 50% de clean sheet du Standard à domicile, c'est quand même assez solide. Il y a Sibus Scrivers au milieu de terrain de l'OHL, qui est très intéressant, qui a été buteur et passeur décisif lors de la réception de Dender en phase classique. Donc, il pourrait également apporter sa pierre à l'édifice.
Eh ben, c'est magnifique pour terminer cette émission. Thomas, je te remercie d'avoir été présent. Toujours des belles moues, des belles petites grimaces du visage. Ça nous fait plaisir. Xavier, merci beaucoup.
Avec plaisir.
Bisous au bébé. Oui, hein. J'espère qu'il va bien. Comment va la crèche? Ça va? Ça se passe bien?
Elle a commencé l'école, même maintenant.
Elle a commencé l'école. Ouais. Mamie, il va devenir aussi intelligent que son père. C'est incroyable. Allez, prenez soin de vous. N'oubliez jamais. Tac, on like. C'est hyper important. Abonnez-vous. On est bientôt 10 000. Il y aura des cadeaux à vous offrir si on atteint les 10 000. Donc, s'il vous plaît, c'est hyper important. Comme d'habitude, dans les commentaires, laissez vos réactions. On a le plaisir de vous lire et c'est toujours un énorme plaisir. Quant à moi, je vous dis au revoir, je vous dis à la semaine prochaine et je vous dis à très très vite parce que le football belge ne s'arrête jamais, parce que le football time est toujours ici. Ciao, ciao.